Je vous présente la conférencière de ce soir, Geneviève Coubi, qui est née le 7 octobre 1953. Elle est docteur d'État de droit public, professeure agrégée de droit public à l'Université de Cergy-Pontoise et co-directeur du Centre d'études et de recherche, fondement du droit public des universités de Cergy-Pontoise et Paris 10 Nanterre. Son parcours, assistant droit public à l'Université de Dijon 1981-1986, maître de conférences en droit public à l'Université des sciences sociales de Toulouse 1986-1992, professeur de droit public à l'Université de Nantes 1992-1996 et professeur de droit public à l'Université de Picardie Jules Verne 1994-1996. Ses spécialités, ses travaux se partagent en deux grands domaines, droit administratif, droit du service public et droit des collectivités locales, d'une part, liberté fondamentale, droit de l'homme et droit des minorités, d'autre part. Pour les publications, elle est l'auteur de nombreux articles dans les revues spécialisées nationales et internationales. Pour ce qui est des ouvrages, elle a publié « Le droit et les minorités, analyse et texte » aux éditions Brûlant, « Droit du service public » aux éditions Montchrétien, et elle a dirigé les ouvrages en collaborant « L'égalité des chances, analyse, évolution, perspective » aux éditions La Découverte, « Langue et droit » aux éditions Brûlant, Bruxelles, 1999. Donc je cède la parole à Geneviève Coubi pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous suivrons un débat avec le public pendant une vingtaine de minutes.
Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir invité à venir exposer dans ces lieux intimidants certaines des réflexions issues de recherches menées notamment sur les fondements du droit et sur les transitions, surtout sur les ruptures qui accompagnent les changements de paradigme dans les discours juridiques, car ces changements suscitent des modifications des textes juridiques et révèlent les transformations de la pensée juridique. Le sujet de cette conférence renvoie à ce type de problématique, dont les formes nouvelles de l'individualisme contemporain atténuent la force de la principale composante de la fraternité, c'est-à-dire l'égalité. Le sujet égalité, inégalité, différence. Les premiers mots au singulier, le dernier au pluriel. Dans cet intitulé s'inscrit une dissonance, différence. Confronté à celle-ci, le juriste ne peut s'en tenir à une simple logique textuelle. Le droit ne peut être compris seulement comme un ensemble de normes juridiques. Le juriste est obligé parfois d'en retenir la dynamique sociale et d'en relever les textures idéologiques. Car les mots sont des actes. Les mots ont un sens. Et le droit est un discours. Évoquer les thèmes de l'égalité et de l'inégalité invite-t-il nécessairement à poser la question des différences? Dans les discours de droit, différents glissements permettent de discerner les principales altérations qui ont affecté la connaissance du principe d'égalité tel qu'il ressort de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tout d'abord, il faut considérer que tout discours connaît des glissements et que ces glissements ont atténué parfois la force des principes. Le principe d'égalité se pense aujourd'hui comme un principe de non-discrimination, premier glissement. À partir de ce déplacement est développée une réflexion sur les inégalités sociales déterminées par le relevé de différences dites objectives de situation, différences de situation qui nuancent évidemment le principe d'égalité. C'est cette problématique qui a amené à penser l'égalité des chances et qui a conduit les pouvoirs publics à détailler des mesures particulières en faveur de personnes défavorisées. C'est cette problématique qui invite à évoquer une notion de discrimination positive qui finalise les différences, notamment de traitement juridique, sans assurer pour autant de correspondance entre situation de fait et traitement de droit. Et c'est cette notion de discrimination positive qui va se jouer entre deux champs, entre champ social et champ culturel, et va faire en sorte que s'insinue dans le discours juridique républicain une idée de différence, dépourvue de tout rapport avec la différence de situation, dépourvue de tout rapport avec la différence de traitement juridique qui était liée à cette situation. Ce sont donc ces glissements qui montrent à quel point, finalement, la question de l'égalité est plus que jamais à l'ordre du jour. Car en retenant les fondements révolutionnaires et la philosophie républicaine du système juridique français, la perception des différences culturelles ne peut pas s'inscrire dans les textes juridiques. En effet, dans l'espace juridique, l'égalité se pense avec les différences. L'égalité n'est pas une qualité intrinsèque de l'individu. Nul ne peut être dit égal seul. L'égalité traduit toujours une relation entre sujets dissemblables. L'égalité n'est conçue que dans les différences. L'affirmation d'un principe d'égalité ne se comprend que parce qu'il a existé. Exister existe des différences. Et le principe d'égalité s'applique à l'encontre de ces différences dont les caractéristiques sont établies en fonction de contextes historiques, politiques, économiques. L'égalité en droit est pensée dans le champ individuel, chacun étant égal à un autre en droit. L'article 1er de la Déclaration de 1789 le dit tout de suite, je vous l'ai déjà dit, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'égalité formelle, donc, qui est spécifiée dans cet article, implique l'égalité des individus entre eux et devant la loi. En découle d'ailleurs la définition des mêmes droits pour tous. Il y a une expression insolite aussi, droits égaux. Cette expression insolite, elle se trouve dans la préambule de 1946. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. En fait, ce sont les mêmes droits. Mais reprenons aussi l'article 1er de cette Déclaration des droits de l'homme de 1789. L'égalité est irrémédiablement liée à la notion de liberté. Cette liberté, elle consiste à faire, à pouvoir faire, tout ce qui ne nuit pas autrui. Et si l'on continue la lecture de l'article 4 de la Déclaration de 1789, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ses mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Cette équation suppose donc une égalité dans la liberté, et ces formulations invitent à considérer qu'un égal traitement juridique est garanti pour tous et pour chacun, pour les uns et pour les autres, en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits. C'est ainsi que, de texture juridique, l'égalité n'entrave pas la liberté de la dissemblance. L'égalité des hommes en droit signifie que chacun est tenu d'obéir à la loi, que chacun a droit aux avantages tirés de la loi. Néanmoins, du fait d'un certain glissement, l'association du principe d'égalité et du principe de non-discrimination qui lui est désormais rattaché suppose que si certaines distinctions font l'objet d'une interdiction radicale, d'autres pourraient être reconnues ou établies par des règles de droit. L'article 1er de la Constitution française dispose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Cet article évoque formellement l'égalité devant la loi, mais voici que sous l'influence de certaines de traditions de pensée, souvent anglo-saxonnes, de nos jours, c'est l'expression « sans distinction » qui retient l'attention. La compréhension de cette expression est modifiée du fait qu'en anglais, distinction se traduit par discrimination. Une substitution des termes est donc opérée, alors même que dans la langue française, les mots de distinction et de discrimination ne revêtent pas le même sens. Ils ne sont pas substituables, ils ne sont pas interchangeables. Les mentions sans distinction d'origine, de race ou de religion ont été émises dans le but de signifier clairement le rejet de toute société construite à partir de problématiques racialisantes et constituée souvent le relevé de différenciations culturelles entre les citoyens. C'est pour lutter contre ce modèle de société, c'est pour contrer les effets pervers de l'essentialisme, pour combattre les politiques multiculturalistes que les pouvoirs publics ont été conduits à les rappeler et à multiplier les mises en garde, notamment en légiférant pour signifier à chaque fois l'interdiction de toute forme de discrimination. Et pour un exemple récent, la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Une discrimination se définit comme une distinction juridique illégitime, illicite, illégale, injustifiable. Elle est radicalement interdite. L'affirmation du principe d'égalité se conjugue avec l'interdiction de toute forme de discrimination. Et pour rappeler l'article 225.1 du Code pénal, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur opinion politique, de leur activité syndicale, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Cette litanie a sans doute un défaut. Elle a pour défaut de situer sur un même plan tout un ensemble d'éléments qui ne relèvent pas d'un même registre. Certains traits sont inaltérables, permanents, qu'ils soient acceptés ou subis. Certains comportements et attitudes sont le résultat d'options choisies ou acceptées. D'autres caractéristiques relèveraient encore plus du regard porté sur les individus par certains, sans même qu'elles n'aient de sens précis, comme par exemple l'apparence physique. Quoi qu'il en soit, la discrimination est interdite. L'articulation donc du principe d'égalité et du principe de non-discrimination à l'origine conciliait deux objectifs. L'égalité prohibe toute forme de distinction en tout domaine, pour toute situation. Premier objectif. L'égalité oblige les pouvoirs publics à interdire les formes de différenciation relatives à quelques traits que la personne n'a pas pu choisir librement et délibérément. Deuxième objectif. Le principe de non-discrimination se comprenait donc comme un sous-ensemble du principe d'égalité, dans la mesure où son espace d'influence était toujours restreint. Il s'attache à des éléments constants, invariables, qui ne peuvent même pas être pris en considération, être retenus comme fondement, base, motif d'une action, voire d'une décision donnée. Le principe d'égalité surdéterminait donc finalement cette idée de non-discrimination. Et voilà que peu à peu, cet agencement s'est vu quelque peu atténué. Cet agencement a été changé et voit sa finalité déformée dès qu'a été reconnu par la jurisprudence, entériné par la doctrine et tout de suite donc accaparé par les discours, le fait que la généralité et l'impersonnalité de la loi ne sont plus des constantes majeures du régime juridique, que l'uniformité de la législation sur l'ensemble du territoire de la République n'a plus à être assurée de manière systémique, et donc que le principe d'égalité n'impose plus de traiter tous les individus de façon identique, puisqu'il s'interprète comme un principe de non-discrimination. C'est que donc que désormais le principe d'égalité proscrit seulement les différences de traitement arbitraires, illégitimes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas rationnellement justifiées par des différences de situation. Dans nombre de décisions du Conseil constitutionnel, on trouve d'ailleurs cette formulation qui rend compte de ce glissement discursif. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qu'il établit. La différence. La substitution donc du principe de non-discrimination au principe d'égalité a permis le relevé de différences de situation justifiant des différences de traitement. La situation dans laquelle se trouve l'individu est au cœur de la problématique donc de l'évaluation des différences de traitement juridique qui sont contraires au principe d'égalité. Toutefois, dans cette perspective, ce ne sont pas les différences de traitement qui doivent être soulignées, mais bien les différences de situation. Cette disposition, effectivement, a des effets pervers. Elle conduit à penser que l'application du principe de non-discrimination permet d'indiquer ce qui doit être égal et selon quels critères. Dès lors, puisque dans les textes juridiques sont signalées des distinctions illégales, il apparaît possible de relever certains autres critères qui assureraient de la caractérisation de différenciation justifiable. Ceci se comprend logiquement pour tout un ensemble de règles concernant l'accès aux services publics essentiels, par exemple l'école, l'âge, on peut admettre la distinction, ou même en ce qui concerne la santé, l'hôpital, on peut admettre effectivement les distinctions. Mais le raisonnement n'obéit plus du tout à la même logique quand les éléments pris en considération sont dépendants de tout un ensemble de données qui, d'un côté, permet de se saisir de la situation économique et sociale de l'individu, c'est-à-dire quand l'élément principal de la distinction se réfère au travail, à la propriété, au niveau de ressources, là qu'on voit les personnes défavorisées, et qui, d'un autre côté, laisse à penser que les situations individuelles peuvent être définies par rapport à des considérations culturelles, collectives ou communautaires, en dépit de la qualité laïque, démocratique et sociale de la République, et malgré la valeur fondamentale du principe d'indifférenciation qui assure les citoyens de l'unité du corps social, de l'unicité du peuple français. Mais de ces deux côtés, il n'y a pas de différence, il existe des inégalités sociales, économiques, il existe aussi des injustices. De fait, si l'égalité en droit se pense au singulier, puisqu'elle renvoie à ces notions de corps social, d'association politique, du peuple, au-delà même de la composante pluraliste de toute démocratie, elle est confrontée au constat sociologique des inégalités, toujours plurielles, diversifiées, démultipliées. La constatation des inégalités, inégalités de fait, inégalités matérielles, inégalités réelles, inégalités économiques, inégalités sociales, n'induit pas nécessairement une relecture du principe d'égalité. La notion d'égalité abstraite, formelle, qui retrace le principe juridique, n'est pas supplantée par celle d'égalité concrète. Plus exactement, interfère, c'est là encore un glissement, une définition concrète des domaines où le principe d'égalité devrait s'appliquer de manière effective. C'est cette approche qui justifie les interventions législatives et réglementaires des pouvoirs publics destinées à réduire les inégalités, alors même que ces inégalités sont le produit, le résultat de décisions politiques et de choix économiques qui ont influencé la production juridique. C'est ainsi que politiques publiques et options économiques ayant partie liée sont déterminées en droit les inégalités auxquelles il semblerait possible de remédier par la voie d'une égalité des chances, d'une part, et que, d'autre part, sont édictées par la loi des mesures en faveur des personnes défavorisées. Ce glissement, qui survalorise donc le principe de non-discrimination par rapport au principe d'égalité, a été donc renforcé par une substitution insidieuse de la notion d'égalité des chances à l'idée d'égalité en droit. Le rapport du Conseil d'État en 1996 sur le principe d'égalité invitait d'ailleurs à rechercher si une meilleure égalité des chances n'apporterait pas aux problèmes économiques et sociaux de la société contemporaine une réponse plus équitable. Il estimait, dans ce rapport, que le principe d'égalité joue davantage sa crédibilité sur le terrain de l'égalité des chances. Mais c'est oublier que l'égalité des chances, c'est une proposition, c'est un projet, c'est un dessein qui dispose autrement l'égalité en droit. La préoccupation des politiques juridiques n'est donc plus d'assurer la garantie de l'égalité en droit. L'objectif n'est pas non plus de remédier aux inégalités réelles en proposant une inégalité de droit. En fait, le projet, c'est de substituer à la conception d'un droit l'idée d'une chance. Et le système juridique échappe à toute remise en cause. Son évolution, ses modifications, ses transformations ne sont pas analysées. Ou du moins, n'ont pas à être analysées à l'aune de la question sociale. Car au fond, donner la priorité à l'égalité des chances par rapport à l'égalité en droit revient à exclure toute réflexion sur la formation, l'apparition des inégalités dites réelles, de ces inégalités matérielles, des inégalités économiques et sociales. Le discours juridique s'est incliné devant la décision économique et l'égalité des chances devient un outil dont disposent les gouvernants pour justifier les distinctions sociales et entériner les conséquences de leurs politiques économiques. Car l'égalité des chances ne propose pas de remède aux inégalités. Au contraire, les inégalités sociales sont entérinées. En effet, l'appréhension des inégalités à travers le prisme de l'égalité des chances signale la qualité de l'effort attendu ou fourni par les individus pour ne pas être en situation de vulnérabilité, pour ne pas se trouver en situation de précarité, pour ne pas être contraint à chercher, à obtenir aide, soutien, assistance. Il se trouve que l'égalité des chances est fondée sur le constat de différence de situation. Et c'est ainsi que la chance transforme les droits en des possibilités. C'est une ouverture sur la possibilité d'obtenir un emploi, un toit, un bien, un statut, un droit. Et bien loin de l'accès aux services publics ou de l'accessibilité des services publics, est présentée une possibilité d'accès aux droits qui en dérivent, renforçant donc l'introduction de la notion de service universel au détriment de la conception républicaine du service public. Aussi, pour ceux qui ne disposeraient d'aucune aptitude pour s'emparer de ces chances qui leur sont offertes, qu'ils sont censés détenir, n'existe pas d'autre forme de soutien que l'aide, l'assistance. En quelque sorte, l'égalité des chances conforte les situations nées de l'exclusion. Que faire donc pour procéder au rétablissement de l'égalité en droit ? Ou si ce n'est pas possible, que faire pour réduire ces inégalités de fait, toujours en tenant compte de ces différences de situation? Mais les pouvoirs publics se sont simplement attachés à définir des catégories de populations, groupes de personnes défavorisées. Ces catégories de personnes défavorisées sont déterminées à partir d'un seuil de ressources, de biens et de revenus fixés par la loi, et celles sont censées devoir bénéficier je dirais, de secours, d'assistance, de faveur. En usant de ces expressions, groupe de population défavorisée, personne défavorisée, personne à revenus modestes, tous ces termes étant tirés des lois, les discours juridiques invitent en fait à opérer une distinction entre favorisés et défavorisés, entre nantis et démunis. Et l'approche qui est développée dans ces mesures élaborées à l'adresse des personnes défavorisées ne peut aucunement se référer au principe d'égalité. En effet, les mesures qui sont prises en faveur des défavorisés sont porteuses de dérogations. Elles ne peuvent être légitimées, reconnues, accordées, que sous certaines conditions objectives, donc basées sur l'analyse des différences de situation, ces situations faisant état, en fait, de particularités quant à l'intégration sociale, quant à l'insertion professionnelle. Et l'objectif de ces mesures repose, en fait, essentiellement sur la nécessité d'aplanir les difficultés que ces personnes rencontrent, d'atténuer les détresses qui en découlent. Et là encore, sans que l'origine de ces situations soit recherchée, sans que les sources de ces situations soient étudiées, sans que les causes de ces situations soient détaillées. Et ainsi, on retient des éléments standards de bonne bourgeoisie pour pouvoir évaluer ces défaveurs, ces situations de défavorisés. Et l'on prend des standards, tels un logement décent, des moyens convenables d'existence. Or, ces standards renvoient aujourd'hui à la pauvreté, à la misère, et parfois même à la, je dirais, à l'insalubrité. Situation de dignité. En fait, ces éléments sont définis de l'extérieur. Ils forment les conditions objectives d'appréciation des situations économiques et sociales. Ce raisonnement, qui est donc là aussi dû à un glissement, contribue nécessairement à limiter l'effet discriminatoire de ces mesures prises en faveur des défavorisés. Mais en même temps, ce raisonnement apparaît profondément discriminant. La démarche est humiliante, elle est pesante pour ceux qui se voient ainsi désignés en situation de précarité, qualifiés économiquement faibles ou dépourvus de ressources. Les mesures qui sont prises en leur faveur les invitent d'une certaine façon à assumer leur infériorité économique et sociale. Ceci pose d'autant plus de problèmes que l'on s'aperçoit ainsi qu'avec ce type de mesures, la redistribution des richesses n'est plus assurée sous le mode de la solidarité. Elle est décomposée donc dans des mesures d'exception, car malgré ces discours empreints de générosité, l'objectif caché de ces mesures n'est pas de remédier aux inégalités sociales, mais de permettre à ceux qui sont ou deviennent défavorisés, de les supporter à défaut, de les accepter. Ces mesures ne cherchent pas à les réinsérer dans le système social et économique. Il ne s'agit pas de proposer une porte de statut, de sortie du statut de défavorisé. Simplement, on assure les personnes concernées d'une certaine bienveillance compassionnelle. Et l'égalité, l'égalité. On cherche tout simplement à la mettre en place. En fait, l'inégalité de droit qui est produite par les mesures prises en faveur des défavorisés, l'inégalité de droit qui est produite par l'égalité des chances, même si on nous dit qu'elle est limitée dans le temps et précaire dans ses effets, cette inégalité conduit à un autre glissement qui ne dit pas son mot. Cela montre tout simplement qu'on va tout simplement importer des concepts d'une autre tradition de pensée. On va vers la discrimination positive. La discrimination positive, elle se définit comme une différenciation juridique de traitement, créée de manière temporaire, certes. La discrimination positive, elle a pour but de favoriser une catégorie déterminée de personnes au détriment d'une autre, afin de compenser une inégalité de fait existant entre elles. Cette inégalité de fait renvoie à la notion de différence de situation. Mais le raisonnement qui est à l'œuvre dans la discrimination positive est inverse de celui qui est adopté pour défendre l'égalité des chances ou les mesures prises en faveur des défavorisés. Pour la discrimination positive, la différence de traitement juridique est le noyau dur, alors que pour les deux autres, c'était la différence de situation qui constituait la clé principale de leur contenu, de leur substance. Là encore, un glissement avec beaucoup d'effets pervers, car il ne s'agit plus de voir une situation et d'y remédier, mais de maintenir la situation par un traitement juridique qui y serait adapté. En fait, les mesures qui sont prises dans le cadre de ce que l'on appelle la discrimination positive sont constitutives d'une atteinte au principe d'égalité. Ces mesures sont dites positives, c'est parce qu'elles sont destinées à amoindrir les effets des inégalités constatées. La logique, donc, de la discrimination positive se détache totalement du principe d'égalité formelle. En effet, elle préconise des traitements juridiques différenciés et toute mesure de discrimination positive a pour but de favoriser une catégorie de personnes placées dans une situation pensée désavantageuse, et ceci au détriment d'une autre catégorie. Et voilà, à partir du moment où on considère ces éléments en présence, on s'aperçoit qu'une mesure qui est prise dans le cadre de la discrimination positive en faveur de personnes ou de catégories de personnes données sont des mesures qui créent nécessairement des frustrations, qui créent nécessairement des envies, qui créent nécessairement des jalousies, puisque c'est au détriment d'une autre catégorie que l'on en va avantager la catégorie dite désavantagée. Donc, on peut se poser la question qui donc y trouve son compte. Car entre la situation des uns et les intérêts des autres, il n'y a pas toujours d'équivalence. Il n'y a pas de compensation des inégalités existantes entre certaines catégories de personnes ou groupes sociaux. Il y a en réalité un soutien pour que la situation dans laquelle se trouvent ces personnes désavantagées ne se dégrade pas plus. D'une certaine manière, ces mesures peuvent aussi servir les intérêts des autres. Car si l'application de mesures de discrimination positive se réalise à l'adresse d'un groupe social prédéterminé, donc ces fameuses personnes désavantagées, ces personnes se trouvent dépendantes, je dirais, d'un rapport particulier qui, avec beaucoup de précautions, pourrait être dite de proportionnalité, puisque l'évaluation des avantages offerts aux uns et des désagréments imposés aux autres se réalise tant sur le plan quantitatif de l'idée des quotas que sur le plan qualitatif de l'idée de mérite. Quel que soit le cas, cette technique ne remet nullement en cause les intérêts des classes dominantes, notamment dans les secteurs économiques. C'est donc que les valeurs de référence sont instables. Et soudain, et là est le problème auquel le droit se trouve être confronté, on s'aperçoit que ces mesures de discrimination positive glissent du champ social au champ culturel. La classification des groupes sociaux défavorisés se trouve soudain requalifiée en groupe culturel. Or, conçu pour garantir les droits de l'homme, pour assurer la protection contre les actes arbitraires, pour empêcher la résurgence des privilèges, pour s'opposer aux formes juridiques des politiques inégalitaires menées par les gouvernants, le principe d'égalité n'invite pas à se pencher sur la question des différences, notamment quand ces différences se pensent en différences culturelles. Car au fond, la question culturelle est une question sensible. C'est une question d'autant plus sensible qu'elle exigerait que l'on pense une question d'appartenance à un groupe culturel. Et ce thème de l'appartenance à un groupe est aujourd'hui lié effectivement à la question des différences, ce qui fait que véritablement ce que je vous disais être une dissonance est plus qu'une dissonance. C'est une brèche, c'est une faille dans notre discours. Et c'est là encore que l'on s'aperçoit que de glissement en glissement, les mots ont du sens et qu'en important certains concepts de pensée anglo-saxonne, pour ne pas dire américaine, on en arrive effectivement à casser l'égalité par l'idée de multiculturalisme. En effet, en droit, s'il y a rattachement, c'est à une catégorie et non à un groupe de population. Ce rattachement, il est le produit de décisions juridiques motivées par les contextes politiques et économiques, par exemple la façon dont on peut repérer les personnes défavorisées. Toutefois, lorsque la situation de l'individu est appréciée par rapport à un groupe de population ou une catégorie donnée, quels que soient les critères de classification de la catégorie ou de différenciation du groupe, le projet de la discrimination positive, comme la visée de l'égalité des chances, est de prendre en compte l'échec probable d'un certain nombre de personnes à cause d'un rattachement culturel plus que social à cette catégorie ou groupe prédéfini. L'échec de l'un explique l'échec des autres, des membres du groupe, et inversement, l'appartenance à la catégorie ou au groupe justifie l'échec de celui qui en relève. Dans ces catégories, dans ces groupes, les individus sont considérés responsables de leurs itinéraires personnels. Ils sont responsables de leurs parcours sociaux, de leur trajectoire professionnelle. Et la probabilité des échecs des membres de ces catégories ou groupes est telle que les pouvoirs publics recherchent évidemment le moyen de les limiter. Mais en cherchant le moyen de les limiter sans faire appel à l'égalité, c'est aussi chercher le moyen de les justifier. C'est ainsi que le passage du champ social au champ culturel modifie sensiblement et dangereusement les lectures du principe d'égalité. Le mot « dangereusement » étant de ma part un jugement de valeur et non pas du discours de droit. Ce passage du champ social au champ culturel, pour revenir à l'objectivité du discours scientifique, signale en fait les limites des politiques compassionnelles. Ce passage explique combien la question des différences culturelles est une question sensible dans les sociétés démocratiques contemporaines. C'est vrai que la disjonction entre questions sociales et questions culturelles paraît artificielle et qu'elle a été contestée. Mais il faut quand même, il faut toujours, nécessairement, penser que quand on met en avant les différences culturelles, on risque de tomber dans la dislocation du lien social. En effet, l'égalité est un principe. C'est un principe juridique. C'est un principe qui exige de penser que la société est faite d'hommes et de femmes égaux, qui aspirent tous à être différents. Les hommes distinguent, les hommes se distinguent, les hommes veulent être distingués. Mais une distinction personnelle ne conduit pas invariablement à une discrimination. Les distinctions individuelles dans l'espace social ne peuvent être fondées que sur les vertus, talents, qualités, aptitudes, compétences, voire les mérites. Ces distinctions sont la résultante même de la culture égalitaire républicaine qui fait que le principe d'indifférenciation ne se traduit jamais par l'uniformisation, la standardisation, la normalisation des conduites, comportements et attitudes. Le principe d'égalité est enraciné dans la théorie des droits de l'homme. Le principe d'égalité ne peut se comprendre que lié à l'égalité. L'égalité juridique, c'est l'égalité des sujets de droit, l'égalité des hommes et des femmes en qualité d'individus libres. Si le constat des différences de situation peut fonder ou non une différence de traitement juridique, je dis bien ou non, car il n'y a pas de systématicité, il n'y a pas d'automaticité de différence de traitement juridique. Il faut concevoir que la question de l'égalité concrète ne peut pas être réalisée sans l'égalité abstraite. En effet, la caractéristique générale d'un système juridique, c'est l'abstraction. La modification des paradigmes, faire de l'égalité concrète l'élément principal au détriment de l'égalité abstraite, c'est défaire le système juridique de ses caractéristiques historiques. Lorsqu'on oppose l'individu concret à l'individu, à l'homme abstrait, il faut savoir que les facteurs à partir desquels s'instituent les différences n'ont pas, je dirais, de certitude. La marge d'appréciation reste toujours discrétionnaire. Certainement, pour éviter les contestations des politiques économiques par trop libérales et capitalistes, on a voulu, là aussi, autre glissement, faire en sorte de transposer l'idée des droits de l'homme, qui sont des droits de lutte contre le despotisme, des droits de lutte contre l'arbitraire, en des droits à une égale attention, à un égal respect, à une égale dignité. Déplacement de l'égalité juridique vers l'égalité morale, qui soutient en fait toutes les demandes de reconnaissance, ont pour effet en réalité de supprimer l'expression des revendications pour une égale répartition des revenus, pour une égale répartition des biens, pour une égale répartition des richesses. Et dès que l'on parle de demande de reconnaissance, il faut savoir que cette notion de reconnaissance ressort du discours relatif au multiculturalisme anglo-saxon, qui renvoie aux politiques de la différence et aux politiques de reconnaissance qui ont été développées à l'égard de groupes culturels définis par leur origine nationale, par l'immigration. Ces modèles sont ceux des États qui ne se sont pas historiquement constitués sur l'unité du corps social, des États qui ne se sont pas qualifiés comme nation, comme État-nation, des États qui n'ont pas pensé la liberté par rapport à l'égalité, des États qui n'ont jamais évoqué la fraternité. Aussi, quand les modes de différenciation entre les individus et les groupes reposent sur les postures et les positions parfois dites identitaires, il ne suffit pas d'en appeler à une idée de tolérance qui dénature le principe de laïcité. Il ne suffit pas non plus d'en appeler au respect et à la considération. il apparaît nécessaire de signifier que dans ces cas surgit le risque de discrimination interdite. Il est donc nécessaire de rappeler les racines révolutionnaires des droits de l'homme. Il est nécessaire de penser que nous nous sommes construits notre Constitution sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Car au fond, le rattachement d'un individu à un groupe culturel donné n'est qu'un constat sociologique, le reflet de positions socio-psychologiques. Retraduire ce rattachement d'un individu à un groupe culturel dans des textes juridiques serait effacer de la conscience collective tout un pan d'histoire, toute une période de sinistre mémoire. Il apparaît ainsi impossible de poser en droit les modes de distinction identitaire, c'est-à-dire en signifiant les différences individuelles par référence à des composantes collectives ou communautaires, voire suivant des raisonnements mettant l'accent, par exemple, sur l'origine, la naissance, la filiation, la fortune, la confession, l'apparence physique, ou sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une catégorie culturelle donnée. L'idée de différence culturelle n'est pas soluble dans la notion de différence de situation qui seule justifie les différences de traitement juridique. Rapprocher des droits dits égaux à des droits différenciés laisserait à penser donc qu'il n'y a pas une seule règle qu'on puisse appliquer à tout le monde, et donc il faudrait ajuster les règles à chacun, aux circonstances, qu'il faudrait des règles différentes pour des individus différents, et se dessinerait le droit à la carte, ce qui est contraire à l'idée d'unité du droit. C'est donc que la question des différences n'est pas une question juridique. S'il existe, sans aucun doute, un lien entre inégalité sociale et différence culturelle, il apparaît insoutenable de penser des inégalités culturelles, à moins de rééditer des discours au relent raciste et colonialiste. Irrecevable, insensée serait l'analyse qui déconstruirait la fonction de l'égalité en droit à partir de cette notion de différence culturelle. L'interrogation sur les différences perturbe donc la logique du discours du droit. Puisque différencier, c'est rendre différent ce qui était semblable, ou rendre distinct ce qui était auparavant indiscernable, il serait temps de repenser les fondements de notre droit et de ne pas inviter à un droit à la différence qui n'a pas de sens en droit. Je vous remercie.
Je voulais savoir votre point de vue sur une inégalité fondamentale qui est inscrite dans notre droit, c'est la question de la propriété. Comment inscrivez-vous la notion d'héritage patrimonial dans votre réflexion sur l'égalité et les différences ?
Je ne peux rien expliquer, simplement c'est vrai que c'est là l'écueil fondamental de la question de l'égalité. Car en fait, la propriété s'oppose dans, je dirais même, la notion de propriété et le nœud sur lequel je bute à chaque fois. Alors, pour en parler rapidement, le thème d'égalité m'avait plutôt conduite à essayer d'éviter de parler de la notion de propriété. C'est que ce n'est pas tant la question d'héritage, l'héritage est déjà une question inégalitaire. C'est que, en fait, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a posé la propriété dans son article 17, je dirais presque comme une verrue sur un texte qui aurait pu être considéré comme parfaitement égalitaire. Le problème est aussi que lorsqu'il y a eu des avancées sociales, que ce soit en 1793, en 1848, même en 1871, parce qu'avec la Commune de Paris, quand même, la question de propriété avait été reposée, puisque justement, c'était un des éléments essentiels de la lutte des locataires contre les propriétaires. Indépendamment de ceci, il est vrai que les sources juridiques font que nous sommes contraints de considérer que la propriété est un droit fondamental, et que le Conseil constitutionnel a même fait valoir la propriété contre les sans-logis, contre les sans-abri. C'est donc pas que je puisse expliquer, je fais face essentiellement à un ensemble de sources juridiques, je n'ai pas effectivement de jugement à poser en dehors de mes propres engagements. Il se trouve que, en fait, qu'il s'agisse d'une question, je dirais, de transmission de la propriété, ou d'une question simplement d'accès à la propriété, ou d'une question de valorisation du droit de propriété, notre système est un système, comme on pouvait dire, effectivement, à une certaine période, bourgeois.
Merci beaucoup pour votre intervention qui nous a tous passionnés. Mais moi, ma question, c'est que proposez-vous ? Comment faire ? Il y a des périodes, comme la période actuelle, où les inégalités, de fait, s'amplifient. Alors, la liberté, finalement, des individus est fonction, je sais pas, 10% de leur valeur personnelle et puis 90% de leur position sociale, comme sur un jeu d'échecs. La valeur d'un pion, ce qu'il peut faire, c'est en fonction de sa position. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer, d'après ce que vous disiez, les discriminations qui aboutissent en gros à des transferts matériels et celles qui en réalité aboutissent à essayer de rectifier une position, dont je pense à quelque chose qui a été très partagé, mais comme la notion de parité, de fait, ça permet quand même à des femmes de se former alors qu'il y avait des blocages. Donc qu'est-ce que vous proposez finalement pour aboutir sinon beaucoup de gens sont parfaitement prêts à adhérer à votre point de vue parce que l'universalité est finalement certainement beaucoup plus moderne que le communautarisme qui est finalement antérieur et peut-être périmé, mais que proposez-vous pour quand le système aboutit à une amplification des inégalités de fait, comment le juriste, le stratège, l'homme d'État peut-il essayer de corriger ces phénomènes ?
Bonsoir madame, moi je voudrais quand même revenir sur ce problème des discriminations positives parce qu'il me semble que le problème est évacué un peu vite et que justement la République qui avait un modèle et avec ses droits abstraits tout à fait intéressants qui a fonctionné à un certain moment, il s'avère aujourd'hui qu'on en est un petit peu dans un problème. D'un côté on a ces principes qui sont encore très très forts et qui théoriquement fonctionnent à merveille, mais dans la réalité, il y a d'énormes problèmes que tous les sociologues aujourd'hui constatent, et certains sociologues comme Madame Schnapper, par exemple, parlent, par exemple, pour le modèle républicain, d'hypocrisie créatrice, ce qui voudrait dire qu'elle estime que les droits abstraits, enfin le modèle républicain, en théorie, a été intéressant, mais qu'aujourd'hui, il est hypocrite. C'est-à-dire que, visiblement, la réalité sociale n'arrive plus à être prise en compte par ce modèle. Alors, je voudrais justement encore vous demander qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, puisque je constate qu'aux États-Unis, la discrimination positive, malgré ses excès, a conduit à certains progrès. Certains groupes qui étaient effectivement marginalisés socialement sont quand même maintenant dans une position plus intéressante socialement. Ils sont visibles dans les médias, dans des cercles de pouvoir. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez Déjà, faut-il maintenir cette notion d'égalité de droit ou est-ce qu'il ne faut pas un petit peu l'amender vu la situation actuelle dont les événements politiques récents nous montrent qu'elle est très vivace ?
En fait, c'est là toujours le problème. En fait, nous vivons une période quand même, il faut être clair, nous sommes en pleine phase mondialisation néolibérale, tout ce que ça comporte. Nous vivons le déclin du droit. En fait, ce que j'ai montré en faisant l'exposé, c'était qu'en fait, avec un corpus juridique quand même qui était cohérent, comment, sous la pression des discours, des doctrines néolibérales, de la pensée communautarienne, du multiculturalisme, On glisse donc de cette idée, de ces principes qui étaient effectivement des principes fondateurs, égalité, liberté, fraternité, qu'on glisse effectivement peu à peu pour se mettre donc au niveau de ce qui n'est plus du droit, mais ce qui est de la régulation. Cette déréglementation, elle fait en sorte que la force que les lois détenaient, la force que le système juridique pouvait avoir pour maintenir la cohésion sociale, cette force, elle s'est quelque peu délitée. Quand on revient à la République, il y a un exemple qu'on cite systématiquement, c'est qu'effectivement, par exemple, aujourd'hui, la notion de service public, qui était vraiment, véritablement au cœur du lien social, la notion de service public, elle n'est plus en phase, effectivement, avec les doctrines néolibérales, en ce qu'elle demande, effectivement, à ce que l'État intervienne. Et si l'État intervenait, c'est aussi qu'il y avait un ensemble de droits créants, c'est-à-dire de droits que l'on pouvait exiger de l'État, protection sociale, la santé, l'instruction et bien d'autres choses. Donc il est évident que lorsqu'on modifie le paradigme, lorsqu'effectivement la notion de service public qui est profondément républicaine et dont le premier des principes était bien le principe d'égalité et le principe de neutralité entre autres, dès lorsqu'on, je dirais, on modifie le paradigme et qu'on parle par exemple de service universel, mais on n'est plus du tout dans la même logique. Puisque le service universel, en fait, c'est quasiment le service minimal, celui qui est dû aux plus démunis, tout le reste étant le superflu, et en fait, on s'aperçoit combien on réduit ce, d'autant, en fait, le champ du droit. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus sous la pression donc, de ce système juridique qui veut que le marché soit effectivement au centre de tout, on s'aperçoit qu'en fait, que l'État, maintenant, par politique compassionnelle, quelque peu obligée, ne peut s'occuper, ne doit s'occuper que des plus démunis, en oubliant complètement donc que s'occupant de ces classes défavorisées, donc des plus démunis, il accroît nécessairement l'idée d'une égalité sociale. C'est qu'alors qu'en fait, il fait de ce type de mesure le début en fait de la fin de l'égalité, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il fait de ce type de mesure l'inégalité de droit, c'est-à-dire comme si le fait d'être personne défavorisée, c'était une situation quasi permanente. Donc, je crois qu'il faut réfléchir quand je parle de ces glissements, et c'est toujours pour ça que je travaille sur les fondements du droit, sur les changements, sur les transitions. Ce qu'il faut montrer, c'est simplement que dans les discours, et on a beau dire, les mots sont importants, dès que l'on a des systèmes, je dirais, d'importation d'autres traditions de pensée, dès que l'on remet en cause l'historicité profonde de notre système juridique, dès que l'on, je dirais, attrape ces éléments que l'on dit flous, ces éléments diffus, ces éléments qui nous obligent à penser où finalement la loi, ça ne se pas, on s'autorégule, on régule, les décisions juridiques, oh, c'est pas la peine, il ne faut pas que l'État intervienne. Dès l'instant où on se replie sur l'État régalien, tout court, c'est-à-dire celui qui a essentiellement le pouvoir, et le pouvoir notamment de contraindre, on oublie complètement que l'aspect de la relation État et société civile, elle reposait aussi sur cette idée, je dirais, de république sociale, de cette idée de solidarité, sur cette idée de fraternité qui faisait le lien, c'est-à-dire en fait, quand on remonte dans nos propres références juridiques, c'est en fait le préambule de 1946, aussi, je dirais, aussi atténué-t-il par rapport à d'autres textes sociaux. Quand on réfléchit aujourd'hui en termes de droit, que l'on a tendance à se référer plus facilement, je dirais, à la Convention européenne des droits de l'homme ou même à la Charte de l'Union, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, plutôt qu'à la Charte sociale que l'on a ratifiée de 1961, la Charte européenne, révisée en 1996, on a de quoi s'étonner. C'est-à-dire, c'est simple, c'est que la position même du droit dans la compréhension des mécanismes politiques, économiques, sociaux, elle a changé. Donc, effectivement, on a un corpus abstrait, mais fondamental, parce que ce n'est que parce qu'il y a le principe d'égalité abstrait à l'origine qu'on peut penser améliorer les situations qui seraient défavorisées. Mais si on supprime l'abstrait, eh bien, on a tout supprimé, c'est-à-dire qu'en fait, on va tout justifier, toutes les inégalités, avec l'arbitraire total des pouvoirs publics. Donc il faut absolument, pour que le système tienne sa cohérence républicaine, là je fonctionne en référence révolutionnaire républicaine en système de droit français, et je maintiens qu'en fait, il y a une spécificité historique à garder. Ce n'est que par là qu'on peut maintenir le lien social, la cohésion sociale, et qu'effectivement, on peut, je dirais, pacifier les relations sociales et remédier aux situations. Si on perd l'abstrait, on a tout perdu.
Une dernière question d'Alfred.
Oui, j'ai une question à propos de la première intervention sur le droit au logement, enfin sur l'opposition entre droit de la propriété et l'égalité des droits. Il me semblait avoir entendu, il y a de ça quelques semaines, sur France Culture, lors d'une émission de vulgarisation, je dirais, juridique, parler justement de l'évolution en fait des luttes qui ont été menées par des associations pour le droit au logement et de ces luttes qui se sont traduites sur le plan judiciaire par la saisine des tribunaux et je crois également du Conseil constitutionnel qui s'était trouvé face à cette opposition du droit de la propriété et de l'égalité des droits et du droit au logement. Et sachant, je crois, que le droit au logement n'était pas inscrit dans notre Constitution. Et il me semblait pourtant que le Conseil constitutionnel avait tranché favorablement en faveur de ces associations en trouvant un biais qui était celui du droit à la dignité. Et la dignité notamment de tout homme qui passe par le fait d'avoir un logement digne de ce nom. Et il me semblait que ce conflit, en fait, qui avait abouti avait une issue positive, pouvait également donner de l'espoir pour que cette égalité des droits, notamment par un droit au travail, et par ce qu'il est combattu actuellement dans nos sociétés néolibérales, eh bien, pouvait donner en fait un espoir aux gens se disant que par le biais justement de ce droit à la dignité, eh bien, le travail rentrait dans ses valeurs.
Vous me confirmez en disant donner droit à l'espoir, en quelque sorte, donner de l'espoir. Non. Je ne suis pas sûre que le droit à la dignité, droit à la dignité, soit véritablement le droit sur lequel on pourrait se baser. Car au fond, moi je dis, la dignité est un droit, tout simplement. Il n'y a pas droit à la dignité. Tant personne pour me dire que la dignité est un droit, l'égalité est un droit, la liberté est un droit. Cette problématique dans laquelle on s'insère, qui effectivement le Conseil constitutionnel avait, je dirais, évoqué l'idée d'un objectif de valeur constitutionnelle pour le droit au logement, cette problématique du droit au logement, j'essaye de vous faire comprendre comment n'a pas été retenue du tout en réalité dans notre système juridique. Que le Conseil constitutionnel, bien au contraire, a fait valoir le droit des propriétaires contre les sans-logis. Et que si vous avez heureusement, quelques tribunaux qui tranchent, eux, les tribunaux, oui, ils tranchent pas le Conseil constitutionnel, qui tranchent en faveur des sans-logis, c'est en général sur des fondements qui ne sont pas des fondements juridiques assurés, et toujours au cas par cas. Et de ce fait, qui nous construit un espèce de droit à la carte, qui fait que, au lieu de dire tout simplement tout le monde doit avoir un logement, et non pas tout le monde a la possibilité d'obtenir un logement, ou tout le monde a droit à un logement décent, ou tout le monde doit avoir un logement tout simplement, on pourrait peut-être considérer les choses autrement. Je crois que ce n'est pas une question d'égalité. Là, on est en train de gérer les inégalités. Et je crois qu'on est parti dans cette problématique maintenant pour longtemps, de gérer les inégalités au lieu de réhabiliter le principe d'égalité.